l'hippogramme et anaphore. Oui, oui, vous avez bien entendu, l'hippogramme et anaphore. Des chroniques littéraires, des événements locaux autour de l'écriture et de la littérature. Le vendredi à 17h05, c'est très précis, après les portraits d'Occitanie, et vous l'entendrez deux fois par mois.
Dimanche 4 juillet. Qui donc a dit que les oiseaux eux-mêmes avaient fui ces régions désolées? Quel journaliste imbécile! Dans les décombres de Neuville-Saint-Vaast, au milieu des ruines, dans les jardins dévastés, sur une branche de cerisier à moitié déchiquetée par un obus, un oiseau chante. Ce ne sont que tuit, 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 sans fin, et trilles et roucoulades. Des obus passent très haut dans l'air, interminablement. Les départs, les arrivées, tout se confond. Mais lui, habitué à tout cela, chante seulement que le soleil luit, que la lumière est bonne. Pourtant, de ce qu'avaient fait les hommes du temps de la paix, il ne reste rien. Rien, rien. Dans les tranchées, un peu en avant du village, on aperçoit parfois avec dégoût un membre humain à demi enfoui qui dépasse. Quelquefois un pied, une main, un lambeau d'étoffe. Pourtant rien n'est plus émouvant que ce village rasé. Pauvres petites fenêtres humbles qui subsistaient dans un pan de mur, petits arbres des jardins du village. J'ai mangé au milieu de quelques pans de pierres écroulées deux cerises qui m'ont semblé exquises et qui avaient mûri tout de même dans ce chaos. Lundi 5 juillet. J'étais à Écoivre, puis à Hac pour M. Debré, le médecin divisionnaire. 7 km de boyaux pour aller, autant pour revenir. On passe par les Ritz, le boyau des Ritz, celui des Alliés, celui des Territoriaux, celui des Cavaliers, le chemin du Pylône et le boyau de Bray, ou celui de Mareuil jusqu'à la chaussée Brunereau, qui est la route d'Arras. J'ai revu la 5e du 74e. J'ai aussi rapporté un petit paquet des choses trouvées sur ce pauvre Vass, cycliste du 6e bataillon, tué hier. J'ai revu Rossignol le soir au Ritz, où les brancardiers divisionnaires sont venus avec moi reconnaître notre poste de secours.
Bonjour. Pour cette première émission de l'Hippogramme et Anaphore, émission littéraire tous azimuts, vous venez d'écouter un court moment d'un spectacle qui entremêle textes littéraires et musique et qui a eu lieu fin septembre à la bibliothèque Roger Sibien de Florac. Il s'agit d'extraits d'un carnet tenu par un soldat tout au long de la Grande Guerre, accompagné d'un violoncelle dont le son vous a paru peut-être étrange. D'ailleurs, si je vous dis « Le Poilu », ce nom nous plonge dans la guerre de 1914. Mais, hormis les soldats au front qui étaient velus par nécessité, de quoi s'agit-il vraiment ? Le Poilu, c'est le nom d'un violoncelle fabriqué en juin 1915 dans les tranchées et avec le bois d'une caisse de munitions, Bosch, paraît-il, par deux soldats menuisiers dans le civil. Et ce violoncelle a été destiné à un violoncelliste de 22 ans mobilisé. Ce musicien, qui se nomme Maurice Maréchal, né en 1892, a donné ses premiers concerts en tant que soliste en 1911. Il sortait du Conservatoire de Paris. Mais en octobre 1912, il part au service militaire, dans la musique du 74e régiment d'infanterie de ligne. Et puis, il enchaîne sur la guerre et il ne sera démobilisé qu'en février 1919. Alors qu'il est encore au service militaire, en mai 1914, il décide de commencer la rédaction d'un petit carnet. Il y en aura 9 jusqu'en novembre 1918. Ces carnets sont regroupés avec les lettres à sa mère d'un ami violoniste qui se nomme Lucien Durosoir, qui est dans un livre intitulé « Deux musiciens dans la Grande Guerre ». Aux éditions Talendier. Un extrait de l'introduction au texte lui-même de ces carnets nous éclaire sur la personnalité de Maurice Maréchal. Donc je vous lis un petit bout de l'introduction à ces carnets. Ces carnets, écrits presque au jour le jour, forment un témoignage à la fois direct et hautement poétisé, le musicien s'avérant un écrivain de talent. Il y parle des événements, bien entendu, mais peut-être davantage de ses sentiments, de ses doutes, émois, craintes, émotions fortes devant le danger, ou douces à la pensée d'une femme qui le fait rêver. Il s'accroche à ses carnets comme à des confidents et leur parle avec sincérité. Homme très cultivé et lecteur infatigable, il puise dans sa mémoire, comme dans les livres qui lui parviennent de l'arrière, la matière de sa réflexion esthétique, philosophique, mystique et de son dialogue avec lui-même. Son amour de la littérature se lit dans son style magnifique, dans les poésies qu'il écrit à la hâte, poésies ancrées dans l'expérience douloureuse. Effectivement, moi j'ai lu en tout cas une bonne partie des carnets et on voit d'ailleurs l'évolution entre le début en 1914 et 1918. C'est assez poignant, l'évolution, on le voit de plus en plus fatigué, de plus en plus... Et le texte s'en ressent, sa façon d'écrire aussi. C'est très très intéressant, je vous conseille fortement de les lire si la période vous intéresse. Je continue un petit peu cette introduction. Donc on parle toujours de Maurice Maréchal. Sa jeunesse et la chance lui permettront de retrouver intact son talent, ses dons et son niveau de virtuose. C'est ainsi qu'il se fera connaître dans le monde entier et terminera sa carrière au poste prestigieux de professeur au Conservatoire de Paris, comme on l'appelait encore alors. Et il est mort à Paris en 1964. Alors je voudrais quand même aussi... Toujours dans cette introduction, vous parlez de son expérience à la guerre, parce que c'est vrai qu'on se demande un peu comment il a fait déjà pour survivre, comment il a fait il a quand même été mobilisé près de 6 ans et demi, comment il a fait pour continuer après à être un virtuose de haut niveau. Alors voilà ce qui est dit dans l'introduction de ce livre. Maurice Maréchal n'a jamais, à proprement parler, combattu les armes à la main. Mais il a été exposé aux plus grands dangers comme infirmier, brancardier, cycliste ou radio. Affecté au 74e RI, il quitte très tôt la Normandie, lieu de sa mobilisation, pour se rendre vers l'Est. Il est alors agent de liaison à la disposition du colonel du 274e. Commencent alors les expériences attendues. Le feu, la peur, la vision des ruines, des blessés, les nouvelles décourageantes des combats, les morts autour de lui, qu'il connaît, qui sont ses semblables, ses supérieurs, ou même ses amis. « Horreur, horreur, comment ne pas perdre la raison » s'écrit-il dès le 9 septembre 1914. Le danger alterne avec les périodes d'inaction, de lecture, d'ennui, de sentiment de solitude, dans ce monde dont il se sent si éloigné par la culture et la sensibilité. Il rencontre d'autres musiciens, reçoit des partitions de quatuors de Beethoven. Proche des services de commandement, il jouit déjà d'une situation quelque peu enviable. Hébergé chez des particuliers, il bénéficie d'une petite chambre et travaille le violoncelle, car il a loué un instrument à Reims. Fin mars 1915, toujours en Champagne, il peut noter « On fait de la musique plus que jamais ». Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des alternances de combats et puis des périodes où il a quand même beaucoup joué. Ensuite, il a rencontré un violoniste, donc celui dont les lettres sont publiées dans le même volume, Lucien du Rosoir, et il a pu jouer en quatuor, il a fait beaucoup de concerts. Et tout. Mais il était quand même en même temps impliqué dans la guerre, on ne lui a pas fait de cadeau. Et il a terminé les derniers mois de la guerre à l'hôpital, il était vraiment épuisé. Mais comment est né ce spectacle dont je vous entretenais au début de cette émission ? C'est Rémi Dumas, luthier à Mende, qui a eu envie de fabriquer une copie de ce violoncelle, dont l'original d'ailleurs est au Musée de la Musique à Paris. Il paraît qu'il n'est pas en très bon état, ce qui n'est pas très étonnant. Il a mûri son projet, donc Rémi Dumas, mais avant de se lancer dans la fabrication, il a cherché un musicien pour le jouer. Et Anne Tixier a accepté de participer à l'aventure. Donc ils ont travaillé sur les morceaux de musique qui pouvaient accompagner le texte. Et puis ils ont trouvé un lecteur, en la personne de Patrick Roy, éditeur, pour associer donc la lecture d'une partie des carnets et le son de ce violoncelle si particulier. Donc je vais vous faire entendre un autre extrait de ce spectacle. Écoutez bien le violoncelle dans la seconde partie.
Mardi 6 juillet. Dans la cave, je finis de manger ma boîte de sardines. C'est, je crois, la première fois que je suis passé si près de la mort. Aller à la Targette avec Cavalier chercher un peu d'eau pour nous laver. Nous entrons dans une ferme, déjà à moitié par terre, sous les obus, chercher un seau pour puiser. Des obus passaient déjà très haut, mais s'en allaient loin de là vers la Targette même. Nous entrons dans la première chambre, écroulée, nouveau sifflement comme les précédents. Nous n'y prenons pas garde. Tout à coup, boum, flash ! On ne voit plus rien. On sent vaguement une pluie de toutes choses tomber sur soi, le plafond effondré, les tuiles qui tombent, la poussière qui vous inonde. Cavalier est assis par terre. Nous relevons tout jaune, couvert de plâtras. Je me sauve vers la porte ouverte. Cavalier me suit en courant. Dans le poste de secours du 6e où nous trouvons Duval, on se tâte. Rien. C'est un miracle, absolument. Seulement quelques légères égratignures. Cavalier en a sur la figure et derrière l'oreille. Moi, une écharde de bois m'est entrée dans le poignet. On la retire, ce n'est rien. Nous revenons de loin. Mercredi 7 juillet, Neuville-Saint-Vaast. Mon Dieu, que c'est beau dans son horreur. Ô ruine, ciel terrible, nuages noirs, soleil de feu, gros panache de poudre, Franck. Est-ce toi qui m'offres cela comme vision, mon dernier adieu? Samedi 10 juillet. On me le disait, je ne le croyais pas. Rasé. Delpy me l'avait pourtant affirmé. Jeudi, j'ai été renouvelé les pansements à l'arrière. Des soldats du 28e traversaient le terrain. J'ai vu son ordonnance et j'ai vu les tombes. Il est le premier. Le capitaine Chamereau à côté, God le 3e et le 4e, c'est Amiot. Depuis 3 jours, je n'ai pu trouver cette faiblesse du cœur malade qui amène les larmes. Je suis presque insensible. Je me suis agenouillé sur cette tombe. Il était là, me regardant peut-être, et j'ai gratté un peu la terre et j'ai pris dans un petit bout de papier une fleur de chèvrefeuille séchée que j'avais emportée de son brin en souvenir de lui. Le papier et la fleur sont dans la terre et j'ai égalisé la tombe. Puis je suis reparti. Mon Franck, que te dire? Je voudrais te parler. Je ne te verrai plus. Fini les rendez-vous. Ah, c'est une page tournée et je t'entends me dire qu'on peut y revenir souvent. C'est cela. Les beaux soirs, par les couchers de soleil qui demandent le silence, tu seras là. Et si je veux, nous resterons tout près l'un de l'autre, la main dans la main, comme il avait prévu sa mort. Pour moi, en tout cas, elle était certaine. Cher Oscar, adieu les chères promenades à Paris. Je n'irai jamais vous prendre au palais, et jamais nous ne reviendrons par les quais ensoleillés. Si, pourtant, votre foi proteste, vous serez là tant que je voudrai, comme vous êtes ici à l'instant, et moi aussi. Je vous embrasse. Elle.
J'ai personnellement beaucoup aimé le lien très fort entre les deux instruments, la voix et le violoncelle. Selon le texte choisi, le violoncelle le soutient en jouant des extraits d'œuvres musicales, dont d'ailleurs certaines sont connues, ou alors il improvise en soutenant l'action. Son timbre est très particulier, ainsi que l'explique Anne, la violoncelliste.
De par sa construction et sa conception, en fait, il est, ça Rémi vous l'expliquera, nettement mieux que moi, il est pas, il a pas un timbre brillant, il est pas, voilà, il a pas, on pourrait pas par exemple sur la scène de la Jeunette, ça aurait pas grand sens de jouer de cet instrument là parce qu'il prendrait pas assez d'espace.
Ce lien fort entre la voix et le violoncelle est fortement vécu par Anne, qui le note ainsi.
C'est comme si on était deux instrumentistes, quoi. Enfin, c'est vraiment à deux parties égales, c'est deux instruments qui jouent. Parfois, vous êtes peut-être tiraillé entre les deux parties, c'est-à-dire écouter que le texte pour écouter que le violoncelle.
Voici pour le plaisir un autre extrait du spectacle. Vous pourrez apprécier les différents rôles que peut avoir le violoncelle.
Midi 15, je suis de retour. Oh, ces boyaux. Cela, oui, c'est inoubliable. J'ai enfoncé jusqu'au genou sur un parcours de 30 mètres dans le boyau des Ritz. Là-bas, en sortant de la division, au carrefour, j'ai écouté cette symphonie de la bataille que vraiment j'entends pour la première fois nettement. On pourrait la noter, et encore, mais la reproduire. L'exécuter avec quels instruments sauvages rendre cela? Des timbales, fa, sol, do, et au rythme dur, sec, cassant, brutal. Des points, des demi-soupirs, devinez, presque. Puis pan, 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 4 doubles croches. Voici une mesure, par exemple. Et sur le 4e temps, brusque, ici un râle, un cri atroce que rien ne peut exprimer. Un coup d'une très grosse pièce qui étouffe tous les autres. Part en mugissant, se perd dans les profondeurs du ciel. Il est impossible de se garer d'une riposte boche. On ne pourrait entendre l'arrivée d'une marmite de quelconque grosseur. On va, haletant dans le fracas, dans la boue, dans l'eau boueuse qui gicle, dans les sifflements ça et là, une compagnie en réserve dans une parallèle, ensuite des étendues de voyous déserts. Comme on a hâte de revoir le bout du monde, d'arriver aux prochains abris. Et pourtant, il y a une sensation qui s'allie à l'angoisse imprécise, celle d'être fier malgré tout d'être là, parce qu'on l'a voulu. 12h25. C'est l'heure annoncée de l'attaque. Maintenant, ce n'est même plus une mer. Il n'y a plus d'onde ni de variation dans les sons. C'est un ouh, 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 qui vous pénètre par les oreilles dans toute la poitrine, vous anéantit presque, vous assomme. Je dors. 12h28, l'attaque est commencée, la fusillade crépite brusquement. Il y a des Français qui courent maintenant dans la plaine au milieu des balles. Je les vois si bien comme si j'y étais. Une ville masque malheureusement le poids de la folie. 13h25, la fusillade a très peu duré, 10 minutes au plus assez nourrie. Ensuite, cela continue à gauche sur la barricade et à droite au labyrinthe. Je suis près du poste d'observation du colonel avec le commandant d'Assonville. Cela marche très bien, disent-ils. Il arrive un ordre, dégagez la ligne Ibis pour une heure pour se porter en avant. Dans l'intervalle, j'ai ramassé un sac, abandonné le long du boyau, et me voilà comme JP avec mon petit sac pour l'attaque. Le premier que je mets de ma vie de soldat. 14h. Joie, on marche libre, dans la pluie. En feu, Neuville. Les premiers blessés, 96e, 129e, passent dans le boyau. 15h07, dans la cave de l'ancienne brigade à Neuville. La liaison attend au téléphone. Les premiers Boches prisonniers viennent de passer, presque tous blessés. L'un des trois derniers, 16 ans à peine. Nos blessés à nous disent que les deux premières lignes sont prises, mais que cela ne va pas si bien que ça. La première ligne était presque intacte. Nous sommes à la lisière du bois de la folie. On dit que les Anglais avancent. Et rencontré dans le boyau, près de la Brancine, un lieutenant d'artillerie qui m'a demandé un renseignement. C'était le lieutenant Alphen, violoncelliste. Quelle rencontre!
Et pour terminer cette émission, voici les dernières minutes du spectacle qui se termine sur la voix de ce violoncelle hors norme. Bonne écoute et à bientôt.
Jeudi 14. J'ai rêvé à Sic, Thérèse. Songe imprécis, douce, pleine de tendresse. Ces songes si rares me sont par cela même plus précieux. Thérèse. 9h. J'ai joué à l'église pour le service funèbre des morts du 274e, un fragment des Béatitudes, Mater Dolorosa, avec un major de l'ambulance, puis un Pie Jésus de Vandenplas et une aria funèbre de Handel. Hier, j'avais été au presbytère entendre dans un phono des fragments wagnériens. Je vais à Susse et à Saint-Léger par un temps d'automne sans soleil et sans pluie. La route est légèrement humide et roule bien. Les feuilles d'or s'amassent au long des fossés. Le 36e fait l'exercice dans les champs. La saveur de l'air me rappelle l'automne de Murphy, de Pouillon et de Saint-Thierry, il y a un an déjà. Dimanche 17. Après-midi d'automne dans les bois, feuilles mortes, brouillard léger au bout des avenues, toutes les jolies teintes dorées brûlées avec les derniers vers du feuillage. Lecture d'une lettre de Marguerite sur un coussin de mousse. Quelques cavaliers isolés. Joué ce matin, prologue des Béatitudes. En ce temps-là, sur la terre, si grande était la misère. Panis Angelicus et une large et lente marche religieuse de Gluck. L'église sonne bien. Le sermon sur l'amour, très bien. Nécessité, que le besoin d'aimer chez l'homme soit sanctifié par l'amour divin. Autrement souffrance. La fin de la lettre de Marguerite. Du bonheur qui n'est plus, voit les débris à terre. Où sont les rêves? Où sont les jours heureux? Il ne t'en reste, hélas, qu'un regret douloureux. Espères-tu toujours, cœur obstiné? J'espère. Mardi 19 octobre. Service funèbre encore ce matin à l'église pour la 3e compagnie 51 du génie. Un petit enfant de cœur doux de noir et blanc vêtu allumait les cierges autour du catafalque. Et cela faisait avec les vitraux derrière l'autel comme une image de vieux missel. Le sermon sur la mort. Lundi 1er novembre 1915. Toussaint. Bonne semaine. Le pays est agréable et j'ai trouvé à faire de la musique avec une bonne musicienne, Madame de Franqueville. Elle a des sonates de piano et violon de Handel, tout à fait merveilleuses. J'ai bénéficié, grâce à ce pauvre poilu, si modeste, d'une chambre dans ce château, dont 3 jours plus tôt j'habitais majestueusement les communs en compagnie des téléphonistes. Je remercie mon destin Quelle chance tout de même d'avoir rencontré Neyen et Plique pour me fabriquer le poilu. Et répétons-le, la musique ouvre bien des portes. Je l'ai joué à la messe ces 2 jours avec beaucoup de plaisir. Tout le monde m'en fait des compliments. Je crois que vraiment, cet étrange biniou sonne bien.